Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un nouvel épisode de notre très attendue et riche série L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés, de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, nous accueillons sur les ondes un aménageur d'une ville en constante mutation. Peux-tu te présenter pour nos auditrices et auditeurs ?
Je m'appelle Robin Mazzella, j'ai 32 ans et je suis paysagiste. Je travaille dans un bureau d'études de paysage et d'urbanisme. Et nous, notre travail de tous les jours, c'est la conception d'espaces publics. Voilà. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ce milieu assez rapidement, après le baccalauréat, où j'ai fait une formation d'aménagement paysager par un BTS. Ensuite, j'ai poursuivi des études en Belgique. Une formation sur l'architecture des jardins et du paysage. C'est une formation assez théorique, mais très enrichissante. Et enfin, j'ai complété cette formation en Ile-de-France, à Vincennes, à l'école du Breuil. Donc, c'était une formation qui était plutôt alliée sur l'écologie et le paysage, qui traitait principalement le végétal en milieu urbain. Et suite à cette formation, je suis arrivé dans une agence de paysage dans laquelle j'ai été associé. Aujourd'hui, j'estime avoir trouvé dans ce métier. C'est un métier, je trouve, qui a du sens parce qu'on travaille donc sur l'espace public, parce qu'il appartient à tout le monde. C'est un métier qui est assez complexe par toutes les contraintes qu'on peut retrouver sur l'espace public. Et on traite justement la question du vivant est primordiale, c'est par le végétal, par les continuités écologiques, donc qui allient la faune, la flore, et aussi l'homme, par tous les flux, les connexions qu'il doit y avoir. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était un métier qui avait du sens et qui m'a tout de suite passionné, à la fois par sa créativité et l'impact qu'on peut avoir sur les gens et sur leur quotidien. Au-delà de ce profil, je suis né à Bayonne, je viens du sud-ouest. C'est une région que j'affectionne tout particulièrement, que j'ai quittée il y a quelques temps pour m'installer à Paris. C'est un mode de vie complètement différent, mais qui me plaît. Et puis, j'ai quand même pour objectif à terme de revenir dans cette région qui est riche en paysages, en culture, en diversité. Et on y mange aussi extrêmement bien.
Qu'est-ce que le vivant signifie pour toi ? Saurais-tu le décrire en trois mots ? Un goût, une odeur, une couleur, une texture ?
C'est une question tellement vaste, tellement complexe, que ça implique une multitude de critères physiques, biologiques, chimiques. La définition du vivant, qui est plutôt dans un ordre chronologique, commence par la flore, puis la faune et enfin les êtres humains qui sont arrivés en symbiose jusqu'à présent, je précise, jusqu'à présent. Et dans le vivant, il y a aussi, pour moi, la question du cycle et de l'évolution qui est fondamentale. Donc il y a le cycle de la vie, la naissance d'un organisme, sa croissance, sa maturité, sa reproduction. Et enfin, le vieillissement avant la mort qui vient clôturer ce cycle. Mais pendant toute cette période, le vivant, il va constamment s'adapter à son environnement. L'adaptation, c'est un mot qui le décrit bien. C'est cette évolution, en fait, qui nous permet de changer au fil du temps et de s'adapter au contexte constamment dans lequel on vit. Et enfin, c'est la transmission qui va être génétique pour les plantes, un peu plus philosophique pour les hommes. C'est la trace qu'on a envie de laisser, le message que l'on veut faire passer. C'est l'âme qu'on a et ce qui, pour moi, est un facteur primordial dans un être vivant et qui va nous différencier de tous les êtres. Pour l'odeur, je parlerai de sous-bois. C'est cette odeur de fraîcheur, de mousse, de résine. Je parlerais même d'humus. C'est l'humus, ça sent la vie, quoi, l'humus. Une couleur, c'est une multitude de couleurs, le vivant. Il y a le bleu pour l'eau, le jaune du soleil, toutes les nuances de vert et de rouge qui défilent au fil des saisons. Donc c'est assez difficile de le définir par une seule. Si je devais en choisir une, je définirais quand même le vert. La texture du vivant, pour moi, c'est passer sa main dans le sol, une terre un peu granuleuse, un petit peu humide. Voilà, pour moi, ça, c'est un peu le contact avec le sol, avec ce sur quoi, dans quoi on va s'enraciner. Enfin, le bruit, c'est à la fois, en fait, le bruit de l'eau, du vent, qui symbolise pour moi tous les milieux un peu vivants. Mais c'est aussi le vivant, je rapproche aussi ça par rapport à l'être humain. Et pour moi aussi, le vivant, c'est le bruit d'une terrasse de café, de restaurant, le bruit des gens qui parlent, qui rient. Que c'est ça aussi la vie. Le goût du vivant, pour moi, il a un côté végétal, un côté assez primaire, en fait, de produits pas transformés. Voilà, ça pour moi, c'est le goût, ce côté assez herbacé et végétal.
Comment retranscris-tu cette vision du vivant dans tes projets ?
C'est, de par mon métier, traiter le vivant, c'est un peu notre quotidien. Où on doit justement l'intégrer. Pour nous, un luxe de pouvoir traiter le vivant. On traite donc le végétal, on traite la faune, on traite les flux humains. Et on fait justement nous, des analyses de sites assez fines sur des études de sol, des évaluations écologiques qui nous permettent de comprendre précisément le contexte dans lequel on s'inscrit. Une fois qu'on a des grands principes, on va dire conceptuels, qui répondent à un programme, ce qu'on essaye de mettre au cœur de notre projet, c'est justement le traitement du vivant. Ça va être les continuités écologiques, les trames vertes et bleues, les trames brunes, tous ces principes en fait d'écologie qui ne sont pas justement des principes que nous, on va mettre en application. Et pour ce faire, on va s'accompagner, nous, de spécialistes, s'accompagner d'écologues pour toutes les analyses de sites, connaître s'il y a des zones humides, des espèces protégées, ou alors même composer nos palettes végétales, qui, elles, ces palettes, sont essentiellement, en tout cas, notre travail agent, c'est de constituer des palettes végétales de végétaux indigènes, donc des végétaux qui sont issus de l'aire de répartition locale, permet d'avoir des végétaux qui puissent s'implanter et croître dans des milieux dans lesquels ils sont à l'aise, ils sont d'où ils viennent. Et pour ça, nous, pour créer ces milieux, on va essayer donc d'avoir une gestion de ces ressources naturelles. Et on essaye de mettre un point d'honneur sur la question de l'eau, qui est très importante et qu'on essaye de traiter au mieux donc dans nos projets. Donc on essaye de traitement des eaux pluviales, de venir récupérer ces eaux au lieu de les envoyer notamment dans le système d'assainissement traditionnel où on mélange les eaux propres avec les eaux usées, ce qui paraît complètement aberrant aujourd'hui. On va essayer justement de déconnecter les eaux pour les réexploiter sur site. Donc on va essayer de diriger les eaux dans les milieux plantés qu'on va créer pour les alimenter en eau, pour que ce soit des plantations et des milieux autosuffisants et qui ne nécessitent pas l'arrosage par de l'eau potable. Ensuite, il y a l'intégration des éléments naturels. On va essayer au maximum d'employer des matériaux comme le bois, comme la pierre. Donc, avec ensuite l'installation de micro-habitats. Ça, c'est plus pour l'aspect. Il y a un aspect quand même assez pédagogique et de sensibilisation. Où on essaye un peu tous les jours de sensibiliser les gens à ces questions justement d'écologie, de diversité, de biodiversité, par des nichoirs, des hôtels à insectes, des panneaux d'information, parce que aujourd'hui l'écologie passe par des actions, mais passe aussi par de la sensibilisation, de transcrire dans nos projets. Pour sensibiliser, déjà, il y a beaucoup de projets aujourd'hui où on nous demande de faire des ateliers de concertation. Et en fait, les ateliers de concertation, ils se font en amont des études. Donc pendant la phase de programmation, où le projet n'est pas encore défini, on propose des ateliers de concertation avec les riverains, donc ceux qui sont directement par le site, géographiquement, qui habitent sur cet espace ou même dans la commune. Et en fait, on leur explique un peu les principes des projets qu'on veut mettre en place et on fait ce qu'on appelle de la co-élaboration. Donc, on co-construit avec les gens. Et c'est hyper important parce que pour que les gens puissent s'approprier leur espace, parce que nous, on vient pour faire un projet, mais on ne vit pas cet espace. C'est les riverains qui vont le vivre. Et pour qu'ils s'approprient l'espace, il faut les faire participer. Et dans cette phase de co-élaboration, de participation, on récupère à la fois toutes les informations terrain que nous, on n'a pas parce qu'on ne vit pas cet espace. Et on en profite également pour leur expliquer des grands principes et comment nous, on peut les mettre en œuvre. Donc, parce qu'on peut nous parler de tram vert, de tram bleu, ça peut paraître abstrait pour tout le monde. Et nous, dans ces ateliers, on essaye de leur expliquer concrètement comment ça va se passer sur le terrain, comme le traitement des eaux pluviales, comme j'expliquais tout à l'heure. On aborde en fait des sujets, on essaie de vulgariser des sujets un peu techniques pour que les gens s'en imprègnent et comprennent aussi pourquoi on a fait tel ou tel aménagement à certains endroits. Et enfin, il y a aussi en termes de pédagogie, il y a la question de laisser la trace. Et la trace, bah, c'est des panneaux qu'on peut mettre en fonction des différents milieux qu'on va créer pour expliquer notamment quand on a des... On appelle ça la gestion différenciée, c'est essayer de minimiser les actions d'entretien d'espaces verts et pourquoi on a des zones de prairie un peu en friche. Voilà, expliquer pourquoi on va venir faucher une à deux fois par an, expliquer que c'est des refuges pour la faune, etc. Voilà, il y a toute cette question un peu de sensibilisation qui est très importante.
D'après toi, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
Aujourd'hui, ce qu'on lui apporte, c'est... Il n'y a rien de vraiment de positif. Aujourd'hui, l'homme dérègle et détruit, donc il faudrait commencer par le respecter, le protéger et le conserver. Et pour ça, ça passe pour moi par des législations, de la communication. Il faut commencer dès le plus jeune âge par l'éducation et la sensibilisation du public. Et un public de tout âge, hein, évidemment, toutes générations confondues. Ensuite, il y a évidemment tout un ensemble d'actions à mener, qu'on va pas toutes citer, mais qui vont être pour moi liées aux pratiques agricoles, aux énergies vertes, aux actions de surveillance et de protection. Ça peut être d'innovations qui sont liées à la technologie et enfin des projets d'aménagement comme on essaie d'en faire à ma petite échelle. Mais ce que l'humain pour l'instant a fait pour le vivant, aujourd'hui on en paye un peu les conséquences et il faut se battre, à mon sens, pour essayer d'inverser la tendance.
On va passer à la question d'actu. En mai dernier, prenez place comme tous les ans depuis 2019, le No Mow May, un mouvement au Royaume-Uni dont le but est de ne pas tondre les pelouses en mai, voire tout l'été. Né de l'initiative d'une association naturaliste Plant Life, ce mouvement fait désormais écho dans 49 municipalités. Dans un contexte où les populations d'insectes ont diminué de 60% au Royaume-Uni et globalement à l'échelle mondiale, le but de cette opération est d'offrir un maximum de ressources aux pollinisateurs à la période de floraison, de mai à août, voire septembre. Depuis le lancement de l'opération, la mobilisation s'accrue. Et chaque année, le nombre d'inscrits particuliers participant à l'opération augmente, avec 7000 participants en 2023. L'équivalent d'environ 1000 hectares non tondus. Outre les pollinisateurs, d'autres visiteurs bienheureux de tant de verdure apparaissent, tels que le hérisson et les oiseaux. Notons par ailleurs que rien que 2 cm de hauteur en plus dans les pelouses, c'est bien 5 à 10 degrés de moins lors des périodes de grande chaleur vouées à se répéter de plus en plus avec le dérèglement climatique. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
C'est bien que des initiatives qui visent à encourager les propriétaires de jardins à ne pas tomber dans leur pelouse. C'est une pratique qui va avoir plusieurs avantages environnementaux et écologiques. Nous, c'est vrai qu'on essaye aussi de se battre, au cadre de mon travail, pour favoriser ce type d'initiative de gestion minime des espaces verts, parce que ça... ça a plein d'avantages. Ça a des avantages sur la biodiversité. Donc une pelouse non tondue, ça va favoriser une grande diversité de plantes et d'insectes. Les herbes, fleurs sauvages, ça va vont pouvoir s'évanouir. Ça va créer un habitat pour une variété d'insectes, de petits mammifères et d'oiseaux, de par la hauteur de cette prairie. C'est des supports aux pollinisateurs également, parce que quand on laisse pousser la pelouse, bah, ça permet aux fleurs sauvages de se développer, de fleurir, et ça va fournir bah, une source essentielle de nectar, de pollen pour les abeilles, les papillons, tous les autres pollinisateurs. Et c'est ces insectes qui sont cruciaux pour la pollinisation de nombreuses plantes. Donc un pion, celle qui produit aussi nos aliments, hein, à ne pas oublier, c'est important de le préciser. Ça favorise aussi la réduction de la pollution. Moins tondre, bah, c'est moins de carburant utilisé pour les tondeuses. Donc c'est moins de gaz à effet de serre. C'est aussi la question de la pollution sonore. Hein, tout le monde en a déjà toujours entendu quelqu'un se plaindre de son voisin qui pompe sa pelouse un dimanche matin. Donc il y a aussi cette question de pollution sonore, en plus de la pollution atmosphérique. Il y a aussi la question de la santé du sol. On dit toujours que, par exemple, pour des talus, c'est bien d'avoir un enracinement des plantes. Ça permet de protéger le sol contre l'érosion. Ça permet aussi de garder une certaine humidité dans le sol. Et cette humidité, par l'évapotranspiration donc des végétaux, les végétaux donc vont capter la photosynthèse, vont avoir besoin d'eau et vont évaporer, vont transpirer cette eau, on appelle l'évapotranspiration, et ce qui permet en soi aussi de rafraîchir les milieux. Il y a des études comme ça qui sont faites, qui comparent des éléments en milieu urbain notamment, à côté de trottoirs de bitume et de trottoirs de bitume mais plantés à côté de végétaux, on peut gagner jusqu'à 5, 7, 8 degrés. Donc aujourd'hui, à l'heure du réchauffement climatique, la question du végétal en milieu urbain est hyper importante. Et enfin, bah, encore une fois, il y a cette question d'éducation, de sensibilisation. No Mow May, c'est aussi bah, un moyen d'éduquer et de sensibiliser les novices hein, sur la question et l'importance de la conservation des pollinisateurs et la gestion écologique également des espaces verts.
On va passer à l'agenda librairie. Quel rendez-vous, référence souhaiterais-tu nous communiquer ?
J'habite à Paris et il y a un lieu que je trouve super. C'est le pavillon de l'Arsenal à Sully-Morland à Paris. C'est un lieu d'exposition, il y a toujours de multiples expositions, après qui est assez propre à ce que je fais, mais ça permet de comprendre les différents aménagements, les expos sur le Grand Paris, sur le métro de Paris. Tout un type d'événements, d'expositions, d'ateliers participatifs pour tous les âges. Là, c'est en ce moment, l'exposition est sur la nature urbaine, une histoire technique et sociale. Cette exposition, ça explore autour de longues histoires et de toutes dimensions. On se positionne sur l'enjeu de la nature en ville, sous l'angle de l'aménagement, sous l'angle d'une fonction nourricière ou encore de son aspect esthétique. Ça parle de cette présence du végétal à la fois dans l'architecture, dans les espaces publics, qui tend aujourd'hui à se renforcer avec le regain d'un besoin de nature qui a aussi explosé suite au Covid. Je vous invite à aller visiter cette exposition si vous êtes dans le coin. Et enfin, un petit festival qui est à Bordeaux, le Climax Festival au Darwin. C'est un espace hyper sympa qui a été lancé en 2000. Il y a des concerts en tout genre. Des débats, des conférences qui portent sur l'actualité, liée principalement au climat. Il y a des rencontres avec une cinquantaine d'ONG, il y a des espaces qui sont dédiés à l'art et au sport. C'est un festival qui est bien parce que ça concentre tout type de personnes, tout âge, et c'est important, je trouve, de sensibiliser les gens aussi dans un contexte où on vient pour se divertir. Voilà, ça change du formalisme qu'on a, des émissions qu'on peut entendre, des papiers qu'on peut lire. C'est une autre forme de sensibilisation. Je trouve que c'est important de pouvoir aussi prendre du plaisir tout en alliant tous ces enjeux à ça. Il faut pas toujours prendre la vie au sérieux. Faut se laisser aller, faut se laisser vivre. faut laisser ses émotions parler, faut écouter son cœur.
Voici que cet épisode a ouvrir des horizons verdoyants en compagnie d'un voyageur du vivant en tout genre prend fin. La semaine prochaine, nous continuons ce périple avec une nouvelle fraîchement cueillie.
Les œufs tremblent, tremblent être noyés.